Chérie, je suis là. Tu ne me vois pas. Il ne faut pas pleurer. Je suis encore là. C'est l'œil du méditant qui touche la réalité de non-naissance et de non-mort. Et cette vision vous libère de votre désespoir. Votre bien-aimé est toujours là, en vous et autour de vous. Il faut regarder en profondeur pour reconnaître sa continuation. Cette vision profonde vous libère du désespoir et de l'angoisse. C'est la méditation sur le vide. Tout est plein du cosmos, mais rien n'a d'existence séparée. Nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons qu'inter-être les uns avec les autres. Lavoisier a dit « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme », ce qui est très bouddhique. Une vision profonde est indispensable au bonheur véritable. Avec cette vision profonde, nous ne sommes plus victimes de la peur, des perceptions erronées. La pratique de la pleine conscience et de la concentration nous permet de faire une percée dans la réalité pour que nous puissions obtenir cette vision profonde, le prajna, qui peut nous libérer de notre désespoir, de notre douleur. Deuxième concentration, la non-apparence, animitta en sanskrit. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Votre nuage bien-aimé n'est plus là, dans son apparence, mais ne croyez pas qu'il est mort. Il lui est tout à fait impossible de mourir. Regardez avec la sagesse de la non-apparence et vous verrez que votre nuage est toujours là, bien vivant, mais sous une autre forme. La première loi de thermodynamique et de conservation de la matière et de l'énergie nous dit que rien ne se crée, rien ne se perd. Il n'y a ni création, ni destruction. Il n'y a ni commencement, ni fin. Ce ne sont que des idées. Quand nous pouvons regarder avec l'esprit de la non-apparence, nous ne sommes plus victimes du désespoir, de la souffrance. Car nous avons ôté ces notions d'être et de non-être, de naissance et de mort. Ces notions ne peuvent pas s'appliquer à la vérité ultime. La vision profonde, ainsi acquise, nous libère de la peur et du désespoir. Et si une personne qui nous est proche vient de quitter la forme sous laquelle nous la connaissions, ne pensons pas qu'elle n'est plus parmi nous. Regardons encore et parlons-lui. Cher ami, je sais que tu es encore là, parmi nous. De même, en buvant notre thé, nous pouvons reconnaître notre nuage bien-aimé dans notre tasse et diriger notre sourire vers ce nuage qui se manifeste maintenant sous une forme liquide. C'est la sagesse de la non-apparence qui nous permet de poser ce regard grâce à notre pratique de la concentration de la non-apparence. Enfin, la troisième concentration, la non-poursuite, apranihita en sanskrit. Ne pas poursuivre, cela implique de ne rien convoiter, de ne pas mettre devant soi un objet derrière lequel courir, même s'il se nomme pouvoir, argent, renommée ou plaisir sensuel. La non-poursuite est une condition de base pour le bonheur véritable. Grâce à la pratique, vous pouvez ramener votre esprit à votre corps. Vous vous installez dans le moment présent et vous pouvez ainsi reconnaître toutes les conditions de bonheur qui sont disponibles, ici et maintenant. Vous pouvez être heureux, là, tout de suite. Vous êtes déjà celui ou celle que vous voulez devenir. Vous êtes une merveille. Pourquoi chercher à être autrement? Comme cette fleur est une merveille, elle peut être heureuse. Elle n'a pas besoin d'être une autre fleur. Elle ne cherche pas à devenir une fleur de lotus ou un chrysanthème. Regardez-vous. Vous êtes une merveille. Pourquoi chercher à être quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes en train de chercher le nirvana ou le paradis, le royaume de Dieu? Le nirvana est déjà là, en vous. Vous êtes bien installé dans le nirvana, la réalité ultime, libre de toute notion, comme l'être et le non-être, la naissance et la mort. Et votre nuage? Il est là. Il réside dans le nirvana, parce que sa nature est la nature de la non-naissance et de la non-mort. C'est pourquoi il peut être heureux en tant que nuage. Mais s'il se transforme en pluie, il se sentira heureux en tant que pluie. S'il devient thé, il pourra être heureux aussi. Il n'a pas à chercher le bonheur, car ce bonheur est accessible ici et maintenant. Et c'est pareil pour nous. Une seule inspiration dans la pleine conscience peut déjà nous apporter le bonheur et la paix tant recherchée. C'est une réponse positive. Avec la pratique de la non-poursuite, on peut arrêter complètement la course. Nous avons l'habitude de courir partout, tout le temps, sans cesse. Même dans nos rêves, nous cherchons toujours quelque chose. Nous pensons que dans le moment présent, le bonheur est impossible. Et c'est pourquoi nous cherchons toujours, nous sacrifions le moment présent au profit du futur. Heureusement, nous avons la pratique et nous pouvons donc nous arrêter. L'arrêt nous apporte calme et paix, reconnaissant que tout est déjà là, y compris le royaume de Dieu, toutes les merveilles de la vie. Le nirvana, la libération, la non-peur sont donc possibles. Avec ces concentrations, appelées les trois portes de libération, le vide, la non-apparence et la non-poursuite, nous allons pouvoir ôter toutes les notions d'être et de non-être. Il est impossible de décrire la réalité ultime en termes d'être et de non-être, de commencement et de fin, ou de naissance et de mort. En pratiquant la méditation, nous pouvons générer un certain soulagement. Mais le plus grand apaisement ne pourra s'obtenir qu'en touchant notre véritable nature, notre nature de non-naissance et de non-mort, c'est-à-dire le nirvana. Quatrième et dernière série de quatre exercices. Les perceptions. Les quatre dernières pratiques de respiration consciente abordent le domaine des objets de l'esprit. Le bouddhisme envisage le monde et tous les phénomènes comme les objets de l'esprit et non comme une réalité objective. Bien souvent, nous nous laissons piéger par la notion selon laquelle il y aurait une conscience en nous et un monde objectif hors de nous. Nous essayons de comprendre ce monde, ce qui affecte nos perceptions, qui est nous-mêmes. En revanche, si nous nous plaçons sous l'angle de l'inter-être, nous nous apercevons que le sujet et l'objet ne peuvent exister séparément. Quand nous percevons quelque chose, l'objet de notre perception se manifeste toujours en même temps que le sujet de notre perception, qui est nous-mêmes. Ainsi, être conscient implique toujours être conscient de quelque chose. Le 13e exercice de respiration nous invite à contempler l'impermanence. J'inspire. Je contemple la nature impermanente de toute chose. J'expire. Je contemple la nature impermanente de toute chose. Intellectuellement, nous savons ce qu'est l'impermanence, et nous sommes aussi d'accord que les choses changent, qu'elles sont impermanentes, et pourtant, nous nous comportons encore trop souvent comme si les choses étaient permanentes. Quand vous vous mettez en colère contre votre bien-aimé, il peut être utile de fermer les yeux. Ne dites rien. Inspirez et visualisez la personne que vous aimez dans 300 ans. Où seras-tu, mon bien-aimé? Et où serai-je? Il vous suffira de quelques secondes pour toucher à la nature de l'impermanence et réaliser combien il est ridicule de vous mettre en colère l'un contre l'autre. Quand vous ouvrez les yeux, la seule chose qui vous semble importante est d'étreindre cette personne qui est là, auprès de vous, et de vous réjouir du fait que vous êtes encore vivants l'un et l'autre. Voilà une magnifique opportunité de pratiquer la méditation de l'étreinte. Il s'agit d'une véritable pratique de l'impermanence. L'impermanence n'est pas une théorie ni une doctrine. C'est une vraie pratique du regard profond, une pratique de concentration. L'idée de l'impermanence ne peut jamais nous aider tant que nous ne pratiquons pas. Une idée reste un concept. Nous avons besoin de la vision profonde de l'impermanence, de la vraie vision profonde de l'impermanence. L'idée ne nous libérera jamais, mais la vision profonde le peut. S'il s'agit d'une vision profonde, c'est là tout le fruit de notre pratique de la concentration. Samadhi, qui, loin d'être une idée, est une pratique véritable. Toutes les personnes que nous considérons comme sages, quelle qu'en soit l'origine, qu'elles viennent de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, sont unanimes pour reconnaître la nature impermanente de toute chose. Avec le 14e exercice, nous contemplons le non-désir, la non-recherche. J'inspire. J'observe la disparition du désir. J'expire. J'observe la disparition du désir. Quand nous visualisons l'objet de notre désir, que ce soit la richesse, la gloire, le sexe ou le pouvoir, nous devons regarder profondément dans cet objet et voir sa vraie nature, parce qu'il pourrait comporter de nombreux dangers. Si nous poursuivons sans cesse cet objet, nous risquons de souffrir indéfiniment, au point de ne pas parvenir à en sortir. Supposons qu'un pêcheur lance sa ligne et que le poisson voit un appât très attirant, puis qu'il veuille y mordre. Si le poisson sait que cet appât cache un hameçon, il n'y mordra jamais, car il sait qu'il y resterait accroché et en mourrait. Il en va de même avec l'objet de notre désir. Nous devons pratiquer la contemplation de non-désir afin de nous libérer de l'objet de notre désir. Cet exercice est destiné à transformer manas, dont la spécificité est d'être en constante recherche de plaisir et d'en ignorer les méfaits. La contemplation sur l'impermanence peut contribuer à la transformation de manas. C'est en posant un regard profond sur l'objet de notre avidité que nous en percevrons la véritable nature. L'objet de notre avidité peut détruire notre corps et notre esprit. C'est pour cela qu'il est aussi important d'être pleinement conscient de ce que nous désirons et consommons. Le Bouddha nous a offert l'enseignement sur les quatre sources de nourriture que nous consommons au quotidien. La toute première est la nourriture comestible. Préserver notre planète et nos enfants passe aussi par elle. Et pour ce faire, nous ne devrions consommer que des aliments qui procurent paix et bien-être à notre corps et à notre esprit. Notre nourriture devrait être consommée de façon à maintenir la compassion au sein de notre cœur. C'est en pratiquant de cette manière que nous pourrons sauver notre planète et garantir un avenir meilleur à nos enfants. La deuxième source de nourriture, quant à elle, concerne les impressions sensorielles. Cela inclut tout ce que nous consommons avec nos organes sensoriels, qu'il s'agisse de musique, magazines, films, conversations, ou qu'il s'agisse même de nos loisirs. Et puisque la colère ou la violence présente dans les articles que nous lisons ou les films que nous regardons pénètre d'office en nous, il nous appartient de faire le choix de ce que nous consommons ou refusons. Nous devons tous nous protéger des nourritures toxiques, même les professionnels de l'aide. Les psychothérapeutes notamment sont des personnes qui doivent être particulièrement prudentes, car leur profession les amène à écouter de nombreuses souffrances et colères. Ces professionnels doivent donc avoir une pratique solide pour pouvoir rester en bonne santé et bien ancrés, faute de quoi ils risquent de tomber eux-mêmes malades. Comment pourriez-vous aider d'autres personnes si vous vous laissez envahir par l'énergie négative des patients que vous rencontrez au quotidien? Idéalement, chaque psychothérapeute devrait donc créer une sangha, une communauté de pratique qui le protège et lui procure la nourriture nécessaire chaque semaine à chaque rencontre. Sans cette pratique, il s'expose à l'épuisement et il lui sera alors impossible de continuer à aider d'autres personnes. Le Bouddha lui-même a consacré beaucoup de son temps à bâtir sa sangha. Et c'est précisément ce que nous devrions faire chacune et chacun. Il ne faut pas toujours chercher bien loin, les éléments de notre sangha sont déjà autour de nous. Construisons une sangha qui nous procurera protection et nourriture, tout en maintenant notre pratique bien vivante. Si nous ne veillons pas à cela, nous perdrons nos acquis au bout de quelques mois, et nous nous laisserons totalement envahir par toutes les impressions sensorielles. Ce que nous consommons, par le biais de nos yeux, de notre nez, des oreilles, du corps et de notre esprit. Nous voyons ainsi que la consommation consciente est une véritable pratique de protection, tant pour nous que pour notre famille et pour la société. Elle représente la voie vers notre propre guérison et œuvre à la prévention de la destruction de notre planète. La troisième source de nourriture est la volition, ce à quoi nous aspirons le plus. C'est elle qui nous procure la vitalité dont nous avons besoin pour mener notre vie. Il nous appartient à chacun de regarder profondément dans la nature de nos désirs, afin de distinguer ceux qui sont sains de ceux qui le sont moins. Nos désirs sont de différentes natures. Et si le nôtre est de rechercher les plaisirs, cela peut être dangereux, notamment si nous sommes sous l'emprise du désir de vengeance, avec la profonde volonté de punir. Comme ces désirs-là puisent souvent leur source dans maintes perceptions erronées, nous devons prendre le temps d'examiner profondément leur véritable nature, afin de clairement reconnaître s'ils proviennent d'une peur, du doute, de la colère, ou s'ils puisent leur source dans d'autres racines malsaines. Siddhartha était lui aussi porté par une aspiration profonde. Comme il voyait combien son royaume était en souffrance et que le pouvoir politique n'y apportait pas l'aide suffisante, il a cherché un autre chemin. Et c'est ainsi qu'il s'est engagé sur de nouvelles bases, œuvrant à sa propre transformation, aidant d'autres personnes à se transformer à leur tour et ouvrant une voie nouvelle. Nous parlons généralement d'esprit d'éveil ou d'esprit de débutant pour nous référer à cette volition. Nous devrions tous avoir une profonde aspiration dans la vie afin de maintenir éveillé notre esprit de débutant, car c'est précisément lui qui peut nous donner la force et l'énergie nécessaires pour poursuivre notre pratique. Enfin, la quatrième source de nourriture est la conscience, c'est-à-dire la conscience collective, l'énergie collective. D'ordinaire, dès que plusieurs personnes se réunissent, elles ont tendance à générer une énergie commune. Ainsi, dès que nous nous rassemblons à plusieurs pour pratiquer la pleine conscience, la concentration et la compassion, nous générons des énergies saines à l'échelle collective, capables de nous nourrir et de nous guérir. C'est pour cela que la création d'une sangha est une pratique de guérison pour le monde. Notre environnement immédiat est tout aussi important. Nous devrions en effet veiller à vivre là où l'énergie collective est saine. Car si nous sommes en présence de personnes en colère, leur énergie parviendra jusqu'à nous. Et même si, de prime abord, nous ne sommes pas comme elles, il est probable que si nous les côtoyons un moment, cette énergie collective nous pénétrera. Et en fin de compte, sans même nous en apercevoir, nous aurons tendance à nous comporter comme ces personnes. Il est donc essentiel que nous examinions la qualité de notre environnement, tant pour nous que pour nos enfants. Le 15e exercice consiste à contempler la cessation. J'inspire. J'observe la cessation. J'expire. J'observe la cessation. Dans cet exercice, nous pratiquons la concentration appelée extinction ou nirvana. L'extinction de toutes les notions, y compris les notions d'être et de non-être, de début et de fin, de naissance et de mort. Il s'agit d'une pratique fondamentale et très utile, car elle permet d'ôter nombre de perceptions erronées. Supposons que nous pensions à l'immortalité et à la mortalité, que nous vénérions un Dieu, que nous croyons que notre Dieu est immortel et que nous, nous sommes mortels. Il existe alors une forme de discrimination entre les deux. Je suis mortel et vous êtes immortel. Je m'incline devant vous et vous demande de m'aider à ne pas souffrir autant. Et quand vous vous inclinez devant le Bouddha, vous dites « Vous êtes un Bouddha. Je ne suis qu'un être humain. S'il vous plaît, aidez-moi. » Cette discrimination entre Bouddha et être humain est donc une perception erronée, parce que le fait est qu'un Bouddha est un être vivant et chaque être vivant peut être un Bouddha. C'est pourquoi, quand nous pratiquons avec la communauté le matin et que nous nous inclinons devant le Bouddha, nous contemplons cette vérité. Cher Bouddha, celui qui s'incline et celui devant lequel il s'incline ont tous deux la nature du vide. Tu es vide de soi séparé, et je suis vide de soi séparé. Toi, Bouddha, tu es fait d'éléments non Bouddha, et moi, je suis seulement fait d'éléments non moi. Je suis en toi, et tu es en moi. Par cette méditation, nous percevons alors clairement la vérité de l'inter-être. Et c'est pourquoi, quand vous vous inclinez, il y a une vraie communication. Sinon, le Bouddha serait seulement le Bouddha. Et vous seriez seulement vous, pour toujours. Aucune véritable communication ne serait possible. Ainsi, si vous priez Jésus, je vous conseille d'ôter toute barrière entre vous et lui, afin de contempler l'inter-être. Votre communion avec Jésus sera alors très profonde. Je crois que les mystiques chrétiens savent comment le faire. Si nous pouvons enlever de telles notions, y compris les notions d'être et de non-être, nous pouvons aussi ôter les notions de naissance et de mort, de début et de fin. Parmi la communauté scientifique, certains chercheurs reconnaissent aujourd'hui que rien ne naît et rien ne meurt. Nous ne pouvons pas créer de la matière, détruire de la matière, créer de nouvelles énergies ou réduire l'énergie à rien. C'est la loi de la conservation de l'énergie et de la matière. C'est très clair. Quelques-uns de nos scientifiques ont vu la nature de non-naissance et de non-mort de la réalité. D'autres, pourtant, cherchent encore à comprendre comment s'est créé le cosmos. Ils essaient de savoir comment il a commencé. C'est de là que naissent les théories telles que le Big Bang ou d'autres encore. S'il y a une création, il y aura une destruction. S'il y a un début, il y aura une fin. S'il y a un Big Bang, alors il devrait y avoir un Big Crunch. Tâchons d'ôter ces notions et nous serons en paix absolue. Nous ne souffrirons plus. Tel est le véritable objet de ce 15e exercice. Contemplez la suppression de toutes les notions, l'extinction de toutes les notions, afin de refroidir toutes les flammes des afflictions. Le 16e exercice nous invite à contempler le nirvana, l'extinction. J'inspire. J'observe le lâcher-prise. J'expire. J'observe le lâcher-prise. Lâchez-prise de toutes ces idées et vous serez totalement libre. Dans le christianisme, nous parlons du salut par la grâce. Dans le bouddhisme, nous préférons l'expression de la libération par la vision profonde. Si vous avez la vision profonde, vous êtes libéré. Mais je pense que la vision profonde est une sorte de grâce. Vous pouvez très bien interpréter la vision profonde comme la plus grande sorte de grâce que vous puissiez obtenir. Par cet exercice, chacun est donc invité à se débarrasser de toutes les notions afin de savourer pleinement la liberté. C'est grâce à cette concentration que nous pourrons toucher la véritable nature de la réalité et la sagesse profonde qui nous libérera de la peur, de l'angoisse et du désespoir. Contrairement à ce que nous croyons souvent, le nirvana n'est pas un lieu où aller, ni quelque chose qui existe dans un futur lointain. Le terme nirvana désigne simplement l'extinction. Le nirvana est la nature de la réalité telle qu'elle est. Il est disponible pour nous, ici et maintenant. Prenons l'exemple de la vague. Quand elle monte à la surface,